Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capu Charlie.
En République démocratique du Congo, il existe une pratique courante dans certains quartiers à forte densité humaine, c'est celle de vider les fosses septiques tard dans la soirée en déversant les matières fécales dans la rue ou dans les caniveaux. Et souvent, les gens profitent quand il y a une petite, il y a quand il pleut. Alors, selon les experts, cette façon de vider les fosses septiques entraîne des risques énormes sur la santé de la population. Et dans certaines parcelles, certains s'organisent pour creuser des trous et puis voilà, ils recourent aux services spécialisés et des jeunes gens du quartier qui vont venir pour vidanger les fosses septiques et puis ils vont déverser les matières fécales dans un trou dans la même parcelle. Alors, quels sont les risques sur la santé Est-ce que cela peut entraîner des problèmes plus tard? Professeur Guillaume Kiyombombe est là, et notre invité, il est expert en santé publique. Professeur, bonjour.
Bonjour, monsieur Régional.
Alors, la première question est de savoir pourquoi certaines personnes avaient recours à cette pratique du danger. Les fosses septiques, jeter, déverser les matières fécales dans la rue ou dans un trou creusé dans la parcelle.
Bon, merci bien, mais c'est une question de facilité. Lorsqu'on a généré les déchets que nous appelons matières fécales et que la fosse est remplie, on évite que la fosse se remplisse rapidement parce qu'il y a un coût lié au vidange. Bon. On fait le bypass, hein, on se déconnecte sur un caniveau et puis assez le régler, il n'y a pas de contrôle.
Oui. Et parfois certains profitent de la pluie, il y a une petite pluie, on en profite pour déverser dans les caniveaux ou dans la rue, jeter dans la rue.
Oui, tout à fait, on profite donc de la pluie pour évacuer les excréments dans un caniveau et parfois même dans un cours d'eau le plus proche. Comme ça, la pluie va charrier tout ça le plus loin possible et ça s'éloigne du générateur. C'est peut-être ça le principe.
Et vous avez dit la cause, c'est que la facilité, les gens n'ont pas de moyens de louer un camion, un bloc, comme on le dit.
Bon, ça c'est une cause, les causes multiples. Hein. Il y a d'abord le fait que l'habitat chez nous ne subit pas les contrôles des services d'hygiène à l'époque. Et vous ne pouvez pas construire une maison et sans la doter d'un système d'évacuation des excréments hygiéniques. Aujourd'hui, on a des maisons qui n'ont même pas de latrine. Alors, si le système d'hygiène fonctionnait de façon optimale, je pense que cette pratique devrait être découragée parce qu'il y aurait des sanctions et ce serait mis au point. Ça, je vous permets. Une autre cause, c'est que les gens ne connaissent pas toujours les risques associés à ces excréments. On pense que c'est la matière déjà dégradée et que bon, on peut les évacuer sans risque, même pour l'environnement. Donc c'est aussi ça, l'ignorance de la population. Mais je pense que tout ceci peut être corrigé si on a vraiment des programmes d'hygiène assez soutenus. Pour organiser et suivre la population, encadrer, suivre et encadrer la population par rapport aux pratiques.
Et vous allez trouver même dans certaines parcelles où il y a du monde et tout le monde utilise des toilettes qui sont dans un état déplorable, parfois bouché, mais les gens continuent à les utiliser.
Mais c'est ça. Beaucoup de latrines ne répondent pas aux normes hygiéniques, surtout dans les quartiers périphériques. Et dans des quartiers où il n'y a pas d'eau, ou même là où il y a de l'eau, si on a un système qui exige que les matières fécales soient entraînées vers une fosse, dès que l'eau n'est pas disponible, par exemple dans une fosse turque, bon, les excréments vont stagner dessus, ça va devenir un bloc, et puis ça va colmater le système, et puis à la longue ça s'accumule, et puis ça fait des nuisances. C'est vraiment un milieu favorable pour la transmission des maladies, surtout pour les familles des choléras.
Alors voilà, professeur, comme on y est déjà, parlez-nous à présent des risques liés à cette pratique.
Bon, les risques se situent à plusieurs niveaux. Il y a d'abord des risques sanitaires, il y a des risques environnementaux et des risques environnementaux. Alors les risques sanitaires, vous savez que les excréments constituent un très bon foyer d'agents pathogènes. Au-delà des matières organiques qu'on retrouve dans les excréments, il y a des micro-organismes. Et parmi les micro-organismes, il y en a qui sont pathogènes. c'est-à-dire que, qui peuvent transmettre la maladie. Et lorsque ces micro-organismes sont libérés comme ça dans l'environnement, ils peuvent persister dans l'environnement pendant plusieurs mois. Par exemple, l'œuf d'Ascaris peut persister 12 mois dans l'environnement. 12 mois. Les bubillons cholériques qui donnent les choléras peuvent persister plusieurs mois dans l'environnement. Donc, lorsque les excréteurs ne sont pas évacués correctement, en fait, on expose tout l'environnement à cette contamination. Et bien sûr que l'homme qui a contact, qui a des contacts avec le sol, avec l'eau, avec la végétation, avec les cours d'eau, est effectivement un risque. Donc, c'est vraiment dommage. Dans des pays, dans les pays occidentaux, on a contrôlé toutes ces maladies du terrier fécal, ce qu'on appelle maladie du terrier fécal, en mettant en place des systèmes adéquats d'évacuation des excréteurs. Et ça, c'est depuis plusieurs siècles. Mais chez nous, on s'attarde à venir, parce que l'habitat, il n'y a pas de politique d'habitat claire. Les gens construisent sans normes, on construit sans latrine, et quand il y a des latrines, ils ne répondent pas aux normes. Alors, ce qui fait que les maladies sont. Alors, deuxième volet du risque, ce sont les risques environnementaux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les excrétats constituent en fait. Les excrétats ont une composition très, très variée. Mais il y a les matières organiques dedans, il y a les matières en suspension, il y a les micro-organismes. Lorsque tout ceci arrive, par exemple, dans un cours d'eau, prenons l'exemple d'un cours d'eau, eh bien, dans le cours d'eau, on va retrouver les micro-organismes qui vont essayer de récupérer les matières organiques qui sont contenues dans les excrétats pour leur propre multiplication ou croissance. C'est ce que nous appelons processus de biodégradation. Au cours de ce processus, les micro-organismes qui sont dans l'eau vont utiliser l'oxygène qui se trouve dans l'eau pour essayer de biodégrader les matières organiques qui sont présentes dans les excrétats. C'est dire que l'oxygène qui se trouve dans l'eau va disparaître. Alors, aucune vie aquatique ne peut résister à un certain seuil d'oxygène. Donc, les poissons, par exemple, à partir de 3 mg par litre, les poissons ne peuvent plus se nutrir dans un cours d'eau. C'est parce que vous voyez toute l'origine calame, moi, je fais ça, hein, tous ces petits cours d'eau tellement pollués.
Pollués, on y jette n'importe quoi.
Ils n'ont plus de poissons. Et on trouve encore quelques espèces qui résistent à la pollution, par exemple les têtards, et de temps en temps, les molos et tout ça. Mais les poissons.
Il n'y en a plus.
Il n'y en a plus. Donc, c'est le résultat de cette pollution chronique. Donc, nous sommes en train de perdre notre biodiversité à cause de cette pratique.
Donc, vous avez dit, dans ces matières fécales qu'on déverse dans la rue ou dans les cours d'eau, il y a des microbes qui résistent même pendant 12 mois.
Qui sont présents pendant 12 mois. Les ascaris résistent. Ah oui.
Nous avons.
C'est des milieux favorables, oui.
Voilà, nous avons des auditeurs en ligne, Roger Tsaba, il nous appelle des Kananga, et Moubindou, des Lubumbashi au Katanga. Roger Tsaba, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, je suis là aussi, j'ai invité.
On vous écoute, Roger.
Ok, moi, ma préoccupation est la suivante. Lorsqu'on pour prévenir vos maladies, pendant cette période où on fait des matières fécales, y a-t-il aussi des médicaments qu'on peut mettre là dedans pour éviter de prévenir aux maladies?
Pardon, pouvez-vous répondre à la question, Roger?
Je dis, est-ce qu'on peut venir aux maladies?
Oui.
Y a-t-il aussi des médicaments qu'on peut mettre dans la source optique pour exposer à un niveau des matières fécales? C'est la question que je me posais à l'invité.
Donc, pour prévenir les maladies, est-ce qu'il y a des produits qu'on peut déverser dans les fosses septiques afin d'évacuer sans problème, sans danger? Merci. Moubindou, vous êtes à Lubumbashi, on vous écoute. Hein.
Okay, bonjour, Radio Okapi.
Bonjour, on vous écoute, Moubindou.
Ok, merci beaucoup. Moi, je voulais juste dire à nos frères congolais de prendre la conscience, quelle que soit la nuit ou pendant la journée, ça pose toujours des problèmes. Vous savez, l'air circule partout. Mais vous verrez les gens, pendant la journée, l'ouvre les perceptifs, en même temps les gens sont en train de faire leur boulot, ça leur provoque des maladies. Il y a un cas qui s'est passé sur Lubumbashi récemment. Il y a une maman qui a ouvert ça pendant la journée. Et ça a commencé à provoquer des troubles parmi les voisins. C'est pour ça que je dis à nos frères congolais de prendre la conscience.
Moubindou, vous voulez dire que cette maman a déversé les matières fécales dans la rue?
Non, non, ce n'est pas pendant la, dans la rue. Il a fait ça dans un trou dans sa parcelle.
Oui, il a fait.
Déjà. C'était pendant la journée.
Mm. Merci, Mobindou. Donc, professeur Guillaume.
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces auditeurs?
Oui, bon, merci bien pour les questions, pour les deux questions. Est-ce qu'il existe un produit qu'on peut jeter dans une fosse pour tuer les parasites ou les bactéries? Bon, les produits existent, hein. Les produits existent, on peut utiliser des insecticides à base de chlore, tout ça, qui sont des petites quantités, hein. Par exemple, si vous me suivez?
Oui, allez-y, on vous écoute.
Par exemple, si vous êtes à la maison et que vous avez un pot, l'enfant fait une diarrhée, on peut toujours mettre un peu de l'eau que j'avais dedans avant de déverser dans la fosse. Donc ça permet de désinfecter les excréments que vous allez jeter. Mais, in fine, j'estime que c'est un gaspillage des ressources. C'est un gaspillage des ressources. Parce que vous n'allez pas acheter des insectes à vite à mettre, parce que les vacances des excréments, c'est un acte quotidien. Mais ce qui est recommandé, c'est d'avoir un système où les excréments sont emmagasinés et se décomposent au fil du temps. Par les différents réactions, que les matières vont se décomposer, et y compris aussi les pathogènes. Mais dans une logique d'utiliser des infectants, ça c'est vraiment à très petite échelle, et surtout en période d'épidémie. Par exemple, si vous êtes dans une situation de choléra, vous ne pouvez pas évacuer les excréments dans le drain ou dans les systèmes publics sans avoir procédé à une désinfection. Parce que là, vous êtes en train de disperser les bactéries dans l'environnement et le contrôle des tissus. Donc, le malade qui fait le choléra, ces excréments doivent être désinfectés avant de les évacuer, même dans une fosse ou dans un trou ou dans un endroit approprié.
Nous avons
une précaution que nous prenons dans des circonstances spécifiques. Mais habituellement, donc, nous conseillons à la population de se doter d'une latrine hygiénique qui doit être conçue correctement pour que les matières fécales séjournent suffisamment longtemps pour que, au bout d'un certain temps, qu'elles soient complètement dégradées et avec les microbes complètement inactivés.
Nous avons un autre auditeur en ligne, Rodrigue Bengue de Goma, au Nord Kivu. Avant de répondre à Mobindou qui nous a appelé de Lubumbashi, vous voulez également participer, composer le 081-890-63-94.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de condition physique. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres haut, débarquer en Bandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en parle. Okapi Sport. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Vidange non hygiénique des fosses septiques, quels sont les risques? Nous recevons aujourd'hui le professeur Guillaume Kiyombo Mbela, expert en santé publique. Rodrigue Bengue nous appelle de Goma, au Nord Kivu. Bonjour. Rodrigue, bonjour. On vous écoute, Rodrigue.
Oui, je voudrais tout d'abord saluer notre invité ainsi que tous les auditeurs de la radio Okapi.
Merci.
Alors, j'avais une petite question en rapport avec le sujet du jour.
Oui, allez-y rapidement, Rodrigue.
Oui, la question est bien comme si, vous savez, ici à Goma, nombreux gens ont vraiment des maisons et des parcelles, disons. Dans leur parcelle, il n'y a pas vraiment de place pour vider les fosses septiques. Sur ce, nous avons des systèmes ici, les gens creusent des trous à côté de la maison, soit devant la maison, le fosse septique dans ces trous, et après on couvre encore. Alors, la question, je voulais savoir si ça n'a pas, au moins ça ne peut pas poser des maladies aux gens qui peuvent fréquenter le millier.
Rodrigue, vous voulez dire qu'à Goma, dans certaines parcelles, on creuse des trous qu'on utilise comme toilette, c'est ça? Et quand c'est plein, on creuse un autre trou?
Non. On utilise le faux septique.
Oui.
Alors, quand on voit que le faux septique est déjà rempli, eh ben, vous voyez, on va creuser parce qu'on ne sait pas où vider le faux septique, où est-ce qu'on peut vider, on a pris des places dans la parcelle.
Oui.
On cherche la place qui est juste devant la maison. Donc, on peut l'appeler la cour, là où les gens restent, les gens, elles sont dans la parcelle.
Oui.
On creuse un trou là-bas.
Oui.
Et puis après, on vide le faux septique dans ces trous et on va après boucher encore avec soit le sable, les cailloux.
Oui.
Je voulais alors poser la question à notre invité si ça ne peut pas vraiment apporter des maladies aux gens qui peuvent fréquenter le milieu.
Merci, Rodrigue. Professeur Guillaume.
Oui.
Vous avez suivi la question.
J'ai suivi la question, je peux réagir.
Allez-y.
Bon, disons que lorsqu'on vidange une fosse, ça peut être une fosse septique ou une fosse ordinaire, etc., le fruit de cette vidange, c'est ce que nous appelons la boue. Hein. C'est une boue, hein. C'est la matière fécale qui est boueuse.
Mmh.
Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut creuser un trou, effectivement, l'entreposer là-bas et recouvrir ce trou quelque temps après. Mais ce faisant, il faut être sûr que vous ne contaminez pas la nappe aquifère. Donc ça dépend de la géologie, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous êtes très 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 haut, la nappe aquifère est très très est assez basse, vous avez très peu de risques que les excréments que vous entreposez dans ce trou puissent les microbes puissent s'infiltrer et aller atteindre un aquifère. Donc, il faut connaître un peu la situation géologique de l'endroit où vous vous trouvez. Mais il y a toujours un risque de contaminer le sol environnant. Hein?
Mm-hmm.
Il y a toujours un risque de contaminer le sol environnant. Et vous savez que certains parasites ont des cycles. L'œuf peut se transformer en larve et la larve peut sortir de... migrer à travers le sol et atteindre l'individu et le contaminer.
Donc, il y a professeur, le fait de creuser ces trous devant la parcelle dans la cour, là où les enfants jouent régulièrement, et puis on
d'ailleurs.
Il y a des risques à ce moment-là.
Le sol est contaminé.
Et il peut y avoir des maladies plus tard.
Ah oui. Hein? On peut attraper l'ankylosomiase parce que l'ankylosomiase a partir de l'âme. Hein? Donc, c'est possible.
Oui, certains disent que les matières fécales, c'est des fertilisants, des bons fertilisants pour le sol. Hein.
Bien sûr. Mais c'est comme l'humus. Hein,
oui.
C'est comme l'humus qui provient de la décomposition de matières végétales. N'est-ce pas? Mais ces excréta, pour qu'ils soient utilisés comme engrais naturel, doivent être pathogènes free. C'est-à-dire ne doivent pas contenir les germes pathogènes. Et ça, il faut un processus pour que ces germes soient inactivés. Lorsque vous utilisez les engrais fraîchement sortis d'une fosse septique, c'est sûr que vous êtes en train de transmettre des agents pathogènes. Et ces agents peuvent aussi s'accrocher au niveau des végétaux et persister les mois. C'est le cas, par exemple, du vibrio cholérique qui peut faire que jusqu'à 3 mois sur une feuille et l'ascaris jusqu'à 1 an.
Voilà, nous avons également en ligne Gaylor Koloté de Kolwezi et Jean-Marc Atiungu de Lubumbashi. Vous voulez également intervenir, composer le 081 890 63 94.
C'est parce que Radio Capi est le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Vidange non hygiénique des fosses septiques, quels sont les risques? Demain, vous êtes à Kolwezi, bonjour.
Bonjour, monsieur, comment vous allez?
Bon, c'est joli, Gaylor. Nous allons très bien. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Gaylor?
Ok, la préoccupation est de savoir, y a-t-il un risque si on ne vide pas les feux toxiques? Là, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième est la suivante. Est-ce que quel est l'heure exacte qu'il faut évacuer les feux toxiques? Tous ces salités-là. Alors, ma troisième préoccupation, s'il y a peut-être, si ça provoque peut-être une maladie, est-ce que cette maladie peut être chronique, par exemple?
Merci, Gaylor.
C'est ça, mais...
Merci. Jean-Marc Kafiongou est à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Jean-Marc.
Oui, j'ai une petite préoccupation là, parce que je pense que tout est déjà un peu dédié. C'est par rapport aux égouts et aux tuyauteries de la région des eaux. Nous, ici à Lubumbashi, sur Axe, avenue Mouero et Abula, nous constatons qu'il y a les tuyaux de la région des eaux qui sont troués dans l'enceinte même de sa direction provinciale. Mais là, c'est pour ce mélange avec des eaux des égouts, vous savez, nous remarquons. On vit de tout le monde, on vit en plus même des gens de la Régie des Eaux, des excréments qui se mélangent avec des eaux de la Régie des Eaux. Est-ce que cela ne peut pas porter un danger pour la population? Parce que même au coin ici, nous sommes ici tous les jours. Il y a même des gens qui lavent les voitures avec cette même eau et vous constatez qu'il y a des excréments là. Quand il y a fuite ou bien quand il n'y a pas d'eau à la Régie des Eaux, le robinet ne coule pas de l'eau. Est-ce que les tuyauteries là ne peuvent pas infiltrer, ne peuvent pas sucer un peu les eaux usées là? Et quand les eaux reviennent, vous ne trouvez pas qu'il y a un peu de risque?
Jean-Marc,
qu'est-ce que vous pouvez conseiller à la population?
Jean-Marc, vous voulez dire lorsque vous ouvrez votre robinet, l'eau coule avec des excréments dedans?
Non, nous remarquons, c'est-à-dire quoi? Il y a une fuite au sein de la direction provinciale de la région des eaux.
Oui.
Cette fuite au niveau des tuyaux qui alimentent la population. Cette fuite se mélange avec les égouts des toilettes. On ne sait pas à quel niveau. Maintenant, nous remarquons maintenant devant les parcelles, toute cette avenue, on les constate. Il y a maintenant cette eau de la région des eaux qui coule comme une rivière mélangée aux excréments. C'est ça ce que nous disons, est-ce qu'il n'y a pas un danger pour la population?
Oui, merci Jean-Marc. Professeur Guillaume.
Oui, j'ai bien suivi.
Vous avez la parole.
Oui, ah bon, le premier auditeur vous pose la question de savoir qu'est-ce qui arriverait si on vide par la fosse. Alors, si la fosse n'est pas vidée, il y aura un trop-plein, il y aura un refoulement de bec vers la maison. Donc, ils sont bien obligés de vider la fosse pour maintenir l'écoulement et faire en sorte que les excrétins ne se refoulent pas vers la maison. Mais ce système-là n'est pas hygiénique. De toute façon, c'est à proscrire, à interdire et à sanctionner.
Alors,
on ne peut pas vider sa fosse vers l'environnement ou le caniveau le plus proche, c'est sans avoir, sans que les excrétats aient subi un traitement.
Mais
alors, mais quand est-ce qu'il faut vider?
Oui.
Mais on vide une fosse lorsqu'elle est pleine. Maintenant, comment pas savoir que la fosse est pleine? Il y a des indicateurs qui nous permettent de comprendre que la fosse est pleine. Par exemple, une fosse ordinaire, lorsque les excrétats sont visibles à l'œil, lorsque vous regardez la fosse et qu'elles sont visibles, vous situez plus ou moins à 50 cm du niveau du sol. Et en ce moment-là, vous ne videz pas, les excrétats vont s'accumuler et vont atteindre le niveau du sol et la contamination du sol en ce moment-là devient maximale. Donc, il faut vraiment vider la fosse lorsque les excrétats, la hauteur des excrétats, la profondeur se trouve autour de 50 cm. Maintenant, pour une fosse septique vraiment bien conçue, là aussi on verra, on va mesurer la hauteur de la boue. Il y a toujours une faute de boue qui s'accumule au fond de votre fosse. Au-dessus de la boue, il y a une faute d'écume. L'écume, c'est un mélange de plusieurs gaz qui peut donner la décomposition. Et entre les deux, il y a les liquides. Alors on va mesurer chaque fois la profondeur de la boue et la profondeur de notre équipe. Et à un moment donné, on sera bien obligé de décrire les normes. Hein. Il y a des chiffres, je ne sais pas en tête, qui vous diront que lorsque l'équipe dépasse le plein de longueur, votre fosse est pratiquement pleine. et vous trouvez du danger. L'avantage avec la force sceptique, c'est qu'il y a toujours un trou de regard qui vous permet donc de
regarder
de façon périodique à quel niveau se trouve. Se trouve votre cube.
Voilà, et Delors a posé une question pour savoir si cela peut entraîner des maladies chroniques.
Bon, les maladies chroniques, les maladies chroniques, c'est surtout les parasitoses. Hein. Les parasitoses, donc, chroniques, c'est pas dans le sens vraiment médical du mot, mais il y a d'abord les maladies aiguës, etc. Donc, le temps d'incubation est tellement court, dans quelques jours, vous commencez à faire votre diarrhée. Et si on vous prend pas en charge, vous pouvez mourir. Mais il y a des maladies de très longue durée, telles que la bilharziose, par exemple. Ça, c'est une maladie chronique.
Ouais.
Mais il y a aussi les autres parasites, les ankylosomiases, etc., qui sont toutes des maladies véhiculées par les périodes fécales. Ce sont des parasites qui traînent des mois dans votre organisme et qui vont se manifester plus tard par les signes de fatigue, de diarrhée de temps en temps, et pourquoi pas l'anémie. Donc ça dépend en fait de la zone pathogène qui est en cause.
Hein. Oui, professeur, alors qui est
dans la régie des eaux.
Oui. Bon,
bien sûr que le réseau de la régie des eaux date de plusieurs années et souvent il est traumatisé. Mais quand la régie des eaux pompe l'eau, la pression à l'intérieur de la tuyauterie est supérieure à la pression qui est à l'extérieur de la tuyauterie. Maintenant, s'il y a une fuite, si la tuyauterie est rupturée, lorsque la régie des eaux cesse de pomper, la pression à l'intérieur de la tuyauterie baisse. Donc, les eaux qui ont stagné à l'extérieur sont entrées dans la tuyauterie. Et lorsqu'on va refouler encore l'eau, on va voir apparaître au niveau du robinet
l'eau polluée.
Hein. Donc, ce qui dit là, c'est vrai, effectivement, il faut surveiller les réseaux et les réparer rapidement dès qu'on constate qu'il y a une fuite ou un traumatisme. Sinon, le risque de contaminer sa rivière.
Guy Basselé nous appelle depuis Matadi et Joachim Banzar est à Colésie. Guy, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Ah, voilà, je salue l'invité. Et puis, je voudrais savoir, maintenant, la meilleure solution de faire, c'est quoi? Quand on sait bien que, comme je l'ai dit, le service, qui fait ce service-là, c'est-à-dire les vidanges, les fausses sites, ça coûte un peu cher. Ça coûte un peu cher. Alors, si vous voyez un peu le niveau de la population, moyennant à ce qu'on gagne, c'est un peu difficile encore de raisonner à inviter ces gens-là pour qu'ils viennent faire leur travail.
Guy, ça coûte combien à Matadi?
C'est quoi?
Oui, Guy,
faire maintenant.
Guy, pouvez-vous nous dire ça coûte combien pour faire appel à ce service?
Je vous dis, c'est aux alentours de $200 et vous montez un peu.
$200. Merci. Joachim Banda de Colosi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
Donc, pour moi, c'est ce que défend le professeur. Nous voyons un danger permanent dans les matières fécales. Quels que soient les enterres, ça peut polluer la nappe épicère. Quand ils sont répandus sur la route, ça peut toujours des problèmes. Au maintenant, moi, c'est trouver une solution par rapport à notre gouvernement. Par exemple, ici au Katanga, qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des camions comme on l'avait dans l'ancien temps, qui tirait les matières fécales et allait les jeter? Ça ne coûte rien. Alors, si par exemple la population est exposée, donc cela aura la population vulnérable. Ça, ma préoccupation.
Merci. Professeur Guillaume.
Merci bien. Bon, effectivement, il y a un coût réel par rapport au ménage pour essayer d'évacuer régulièrement les forces. Mais là, nous n'avons pas une solution. Parce que dès que la fosse est construite, et que elle est utilisée, et à un moment donné, il faut s'attendre à ce qu'elle soit remplie. Disons, le système actuel tel qu'il est conçu doit nécessairement exiger des vidanges périodiques. À moins de se brancher sur un réseau d'égouts, et le même réseau d'égouts amène les excrétats ou les eaux usées vers une usine de traitement des eaux usées. C'est ce qui existe dans les pays développés. Et là, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, la politique de l'habitat. Donc, les maisons sont construites, mais leur système d'évacuation des excrétats doit être réseauté pour que toutes les eaux usées soient cheminées quelque part, dans un lieu spécifique, où elles peuvent être traitées, et à ce moment-là, les fluents peuvent être évacués dans un cours de plus proche sans centre de problème. Mais maintenant, les maisons sont construites entre autres, c'est difficile d'imaginer un système comme ça. Peut-être dans des quartiers qui restent à l'outil, il faudra absolument avoir un système collectif de gestion des eaux usées pour éviter ce que nous avons déploré tout à l'heure, c'est-à-dire le vidange périodique des fosses septiques de façon inappropriée. Alors maintenant, il y a effectivement un problème de pollution de nappe aquifère, comme nous avons dit, et une des solutions serait que l'État organise le service de vidange. À Kinshasa, le service a existé. Il y a André Motoff, à l'époque, qui avait des camions vidangeurs qui sillonnaient, etc. Bon, ce service apparemment n'existe plus, ou s'il existe, ils ne sont plus très performants. Effectivement,
il existe aussi le programme national d'assainissement, Pena.
Alors
Pena, il existe un programme national d'assainissement qui a aussi des véhicules.
Ah, c'est le véhicule, donc il ne peut pas couvrir tous les besoins. C'est ça le problème. Donc, je parle d'un système organisé, soutenu par l'État, etc. Parce que la santé publique, c'est de la prévention. Si nous ne gérons pas bien les excréta, et bien sûr, nous allons continuer à courir derrière les épidémies de choléra chaque année et avec des morts d'hommes qu'on aurait pu éviter. Donc, si l'État met en place ce système-là, alors il faut agir en avant, mettre en place une décharge contrôlée pour recevoir ces boues. Ces boues peuvent être étalées, par exemple, sur un espace pour être séchées, de façon que les pathogènes soient inactivés, détruits par les rayonnements solaires. Et à ce moment-là, les laboratoires aidant, on peut en analyser la qualité, rechercher la concentration en pathogènes. Si les pathogènes ne sont plus présents, on peut récupérer cette boue-là comme la matière organique pour enrichir le sol, pour l'agriculture. Quoi. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment une gestion intégrée de ces excréta, et qui vont nous aider donc à avoir des engrais biologiques.
Professeur, alors qu'est-ce que vous pouvez dire? Professeur, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à concernant par exemple les toilettes indigènes dans nos villages où on creuse un trou, on utilise et quand c'est plein, bon, on jette un peu de cendre et puis on recouvre même dans les périphériques et puis on creuse un autre trou et ainsi de suite. Est-ce que tout cela peut avoir des conséquences plus tard?
Bon, les trous qu'on creuse dans les villages, vous savez, les villages sont toujours bien localisés. Hein. Les villages sont vraiment situés sur une montagne. Et les cours d'eau est en aval. Donc, si le trou est creusé sur la montagne et que la nappe aquifère est très basse, en ce moment-là, le risque de contamination de la nappe aquifère est faible. Maintenant, les excrétas qui sont mis dans le trou vont se décomposer. Lorsque le trou est plein dans le village, on abandonne, on recouvre le trou, on abandonne. Et puis, au bout de quelques temps, au bout d'une année, on vient planter les arbres dessus. Ça devient un engrais biologique et les arbres généralement qui sont plantés là-bas poussent très 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 bien. Le risque, vous voyez, dans les villages, la densité de la population est tellement faible dans certains villages que le risque de contamination est faible. Mais en ville, vous avez votre latrine ici et le derrière de votre latrine, c'est le devant de notre parcelle. Vous voyez qu'en ce moment-là, le risque de contamination est dû aussi à la densité de la population et très élevé.
Professeur,
mais le système individuel est conseillé en milieu rural parce qu'on ne peut pas avoir un système collectif dans un village où il y a 10 maisons. Non, c'est trop coûteux. Mais pour les grandes agglomérations, il faut absolument avoir des systèmes collectifs de gestion des déchets, des déchets liquides, des excrétats.
Professeur Guillaume Kiyombo-Mbela, expert en santé publique, merci et à la prochaine.
Merci bien.